Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De nouveaux points de blocage ce matin. Les agriculteurs qui se mobilisent désormais à Avignon, pas convaincus des promesses du gouvernement, à savoir l'accélération de la vaccination contre la maladie bovine. Les réactions aussi, tiens, vous allez les entendre ce matin à l'annonce d'Emmanuel Macron qui veut augmenter à 500 euros le montant de l'amende forfaitaire en cas d'usage de stupéfiants. Encore faut-il que ces amendes soient payées. Et puis peut-être bien une affaire d'espionnage digne d'un roman dans le port de Sète après la découverte au début du mois d'un logiciel espion sur un ferry.
La colère agricole continue de faire tache d'huile.
Oui, le gouvernement promet donc d'accélérer la vaccination dans le sud-ouest contre la maladie bovine en sollicitant désormais les quelques 70 vétérinaires militaires. Mais en continuant, vous l'avez bien compris, les abattages de troupeaux au moindre cas. Et c'est toujours ce qui met en colère les agriculteurs et les agriculteurs qui se mobilisent ce matin sur un pont au sud d'Avignon. C'est un nouveau point de blocage donc où se trouve Caroline Le Canuet de la coordination rurale.
Le problème de l'abattage total n'a absolument pas été abordé et on sait très bien que c'est le point de clivage entre les agriculteurs et le gouvernement aujourd'hui. C'est cet abattage total qui est absolument insoutenable, qui met des éleveurs en grande difficulté économique, mais aussi morale, psychologique. Et nous, et quand je dis nous, c'est pas simplement la coordination rurale, c'est l'ensemble des agriculteurs de France. On est vent debout contre cette mesure d'abattage total.
Il y avait 75 points de blocage recensés hier soir, essentiellement dans le sud-ouest, 30 de plus que la veille. La 64, l'autoroute toujours coupée sur une centaine de kilomètres, c'est l'autoroute qui longe les Pyrénées où les réservations sont en hausse de quasiment 30% sur un an selon le site PAB pour les vacances là qui commencent à la fin de la semaine. Tiens, d'ailleurs, le maire d'Ax-les-Thermes, Dominique Fourcade, nous dit ce matin, on l'a appelé à RMC, bien que sa station est coupée du monde et qu'il commence à y avoir des rayons vides dans les magasins à cause des blocages sur la nationale.
Ax-les-Thermes est coupé du reste du monde, je pourrais dire, pour l'accès camion, et nous ne sommes plus alimentés, donc les grandes surfaces n'ont plus rien. On commence à avoir les magasins qui sont désapprovisionnés, il y a les rayons qui sont vides, et ça commence à devenir un problème, et nous sommes une station touristique. Les vacances scolaires qui arrivent, les hébergements sont réservés, archi-réservés. Mais quand les touristes vont découvrir que l'accès est extrêmement difficile et compliqué, je pense qu'ils vont évoluer. On le voit à la station de ski, on a quasiment personne. La station de ski est ouverte, mais il n'y a pas de chat. Si ça persiste pour le week-end des vacances scolaires, ça va être un problème. Ça met à mal notre tissu économique.
Alors, on entend d'un côté les conséquences, de l'autre aussi, on entend la colère. Romain Cluzel, du service politique RMC, en direct ce matin. Même si la réponse ne convainc toujours pas les agriculteurs mobilisés dans le sud-ouest, on voit bien que le gouvernement multiplie les réunions pour tenter d'éteindre cette crise.
Exactement, le Premier ministre a décidé de changer de braquet, de monter au créneau. Les premières déclarations d'Annie Genevard n'ont pas suffi à calmer la colère des agriculteurs. Et Sébastien Lecornu a un objectif, éviter que les blocages se prolongent et s'intensifient. Parce qu'à partir de la fin de la semaine, les vacances commencent avec de nombreux déplacements partout dans le pays à quelques jours de Noël. Sébastien Lecornu va d'ailleurs recevoir les syndicats agricoles à Matignon vendredi parce qu'une autre échéance vient s'ajouter à la colère des agriculteurs, l'accord du Mercosur. Un vote du Conseil européen doit avoir lieu vendredi avant une potentielle signature du traité samedi au Brésil. Inacceptable pour les agriculteurs qui organisent de nouvelles manifestations à Bruxelles et en France dès demain. Et sur ce dossier, c'est le président de la République qui tente de repousser le vote, sans succès à ce stade. De l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple, pousse pour avancer même sans la France. Mais Emmanuel Macron a tout de même un espoir. Si l'Italie se rallie à la position de la France, cela suffirait pour bloquer cet accord du Mercosur.
Emmanuel Macron qui veut pilonner le trafic de drogue. C'est le terme qu'il a employé hier en déplacement à Marseille, en tapant, je mets plein de guillemets, sur les consommateurs de drogue et en augmentant le montant de l'amende forfaitaire de 200 euros aujourd'hui à 500 euros en cas d'usage de stupéfiants. Est-ce que c'est la bonne solution ? Tiens, le maire de Marseille, Benoît Payan, s'interroge, écoutez-le.
Vous pensez qu'un consommateur qui prend le risque de payer une amende à 300 euros va être dissuadé par une amende à 500 euros ? Moi, mes ennemis à moi, c'est ceux qui ont du sang sur les mains. C'est les narcotrafiquants.
Alors, on s'est penché sur ces amendes forfaitaires ce matin à RMC. Romain Houg, on parle de combien d'amendes chaque année ?
Eh bien, année après année, les forces de l'ordre en dressent de plus en plus. Ces amendes forfaitaires délictuelles, elles ont été créées en 2016, initialement réservées aux auteurs d'infractions routières. Elles ont progressivement été appliquées à d'autres infractions. L'année dernière, il y en a eu près de 500 000, dont 200 000 pour usage illicite de stupéfiants. C'est 7 fois plus qu'en 2020. Maintenant, le problème, c'est le taux de recouvrement de ces des amendes. Emmanuel Macron ne le juge pas satisfaisant. Il est même loin d'être probant, selon un sénateur socialiste, auteur d'une proposition de loi visant à réformer ce type d'amende. Il a planché sur le sujet. Son bilan est sans appel. Au total, seulement 20% de ces amendes sont finalement payées. Une sur deux, si l'on regarde uniquement les infractions liées à l'usage de stupéfiants, ce qui met en doute, selon lui, l'efficacité de la réponse pénale.
Une info que l'on vient d'apprendre, le bilan de l'explosion d'un immeuble que Salourdi a 3 morts dans l'Ain, à Trévoux, au nord de Lyon. Les secours en fait confirment qu'ils ont retrouvé le corps d'une troisième personne, la troisième personne qui était recherchée, une femme recherchée depuis l'explosion, sans doute liée au gaz avant-hier.
8h05 sur RMC, et c'est une affaire digne d'un roman d'espionnage.
Oui, qui se passe dans le port de Sète, donc en Méditerranée, où les services de renseignement enquêtent sur une tentative de piratage d'un ferry en escale à Sète. Il y a quelques jours, un homme originaire de Lettonie a été écroué après donc la détection d'un boîtier espion à bord de ce bateau, Julie Brault.
Oui, il s'agit d'un dispositif malveillant de très haute technologie appelé Remote Access Tool, comprenez, outil pour prendre à distance le contrôle d'un appareil. Un dispositif retrouvé vendredi dernier par les agents de la DGSI à bord du ferry Le Fantastique, un paquebot italien de 180 mètres de long amarré dans le port de Sète et sur lequel les enquêteurs ont interpellé deux hommes, un bulgare et un letton. Ce dernier est suspecté d'avoir piraté le système informatique du ferry pour en prendre le contrôle et le détourner. Et les enquêteurs cherchent désormais à déterminer qui lui a fourni ce dispositif malveillant et surtout dans quel but. Parmi les hypothèses, celle d'une action violente ou encore d'un acte de sabotage pour le compte d'une puissance étrangère, la Russie se trouvant alors en tête de la liste des pays suspects.
On parle encore ce matin des petits colis qui, bien souvent, vous l'avez compris, viennent de Chine. Un rapport parlementaire nous apprend ce matin que leur nombre a été multiplié par 5 en 3 ans et que, eh bien, pourtant, seulement 0,01% d'entre eux sont contrôlés aux douanes. Le foot et le Paris Saint-Germain en finale ce soir. Vous l'avez pas vu venir, cette finale, c'est la finale de la Coupe Intercontinentale qui se jouera au Qatar contre les Brésiliens de Flamengo. Arthur Perrault pour RMC, en cas de victoire, les Parisiens deviendraient à jamais le premier club français à remporter 6 trophées en une année.
Oui, Paris peut réaliser ce soir à Doha ce qu'aucun autre club français n'a jamais fait. Pour l'entraîneur Luis Enrique, pas question de passer à côté de cet événement.
Je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière, et continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de cette saison.
Malgré les pépins physiques à répétition et des prestations en dents de scie en championnat, le PSG veut bien finir 2025. Le milieu de terrain Vitinha surmotivé.
Oui, on veut refaire la même chose, gagner un trophée inédit pour nous, pour PSG. Encore plus pour un club français, mais c'est ça qu'on a. Beaucoup d'envie de jouer ce match, beaucoup d'envie de ramener la Coupe à Paris, et on va être là à 100%.
Preuve que Paris veut briller ce soir au Qatar, pays de son propriétaire. Une équipe quasi-type est attendue avec le grand retour comme titulaire de Désiré Doué en attaque.
Voilà, et ce match, cette finale, à 18h, on l'aura évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Et puis à 8h08, tiens, je voudrais saluer les petits nouveaux, parce que si vous êtes dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère ou en Vendée, vous pouvez désormais nous écouter en DAB+. Bienvenue aux nouveaux auditeurs d'RMC, donc, qui se trouvent notamment à Lannion, à La Roche-sur-Yon, à Ploermel. Vous êtes les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir sur nos ondes. Il est 8h08, on part au 32-16. Sofiane qui nous appelle de la Marne. Vous êtes chauffeur poids lourd. Bonjour Sofiane.
Bonjour Apolline.
Vous avez entendu ce député qui dit que, en fait, les petits colis venus de Chine, c'est une véritable tsunami, hein, c'est ce qu'il dit, qui est quasiment pas contrôlé. Et quand c'est contrôlé, on se rend compte que rien n'est aux normes. Vous êtes consommateur, vous, de ces petits colis, Sofiane?
Oui, moi, je suis consommateur depuis presque maintenant au moins 10 ans. Franchement, au moins 10 ans. J'ai jamais eu de problème.
Vous consommez, ça veut dire quoi, sur Amazon, en fait, si c'est depuis 10 ans?
Non, moi, c'est plus AliExpress.
Ok.
Plus AliExpress, mais Amazon, finalement, c'est la même chose, sauf qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Donc, s'ils font la guerre à AliExpress, ils font la guerre à Amazon aussi. Moi, c'est juste... j'ai jamais eu de problème avec ce petit colis-là.
Vous achetez quoi?
Alors là, récemment, c'était des décorations d'anniversaire pour mes enfants.
Ok.
Vous voyez, ouais. Décorations d'anniversaire. Bon, on paye ça peut-être 4 fois moins cher. 4 fois moins cher que dans une enseigne normale.
Ouais. Et puis ça, vous arrive direct à la maison.
Des décorations de moto, enfin des décorations de moto, des caisses
des décorations de moto. J'aime beaucoup ça, Sofiane. C'est quoi vos décorations de moto?
Non, des décorations, je me suis trompé dans le terme, mais je veux dire.
C'est quoi, c'est des autocollants,
c'est le tuning, quoi. Rétroviseur, oui, voilà. Mais j'ai vraiment jamais eu de problème. Après, ce que je voulais dire, c'est que. Bah, ça arrive souvent par la poste ou par des petits transporteurs. Donc, ça fait aussi du travail. Moi, demain, il y a plus de petits colis en provenance de Chine, pour la poste. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire.
Oui, oui. Et puis, il y a une partie. C'est-à-dire, on avait tout à l'heure un facteur, qui nous a appelé, au 3216. Ouais. Et le facteur, il disait que c'était désormais 25% quand même de ses tournées. Et à mon avis, c'est même peut-être plus dans certains coins. Merci, Sofiane.
Une dernière chose. Tout est fabriqué en Chine. Alors après,
La petite différence, Sofiane, c'est que si vous l'achetez dans un magasin, le magasin est comptable du respect des normes. C'est-à-dire que effectivement, il doit s'assurer lui que les normes sont bonnes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté Dominique Schelcher, le patron des magasins U, qui était mon invité hier, qui disait on a même certains de nos responsables de magasins qui vont jusqu'en Chine pour s'assurer que tout ce qu'ils vont importer respecte les normes, etc. Sofiane, c'est quoi votre moto?
Alors là, actuellement, c'est une Africa Twin. Enfant DCT.
Wow. Allez, ça y est, on est sur les routes avec vous. Il est 8h11, bonne journée à vous. On va parler économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Salut Emmanuel. L'origine, l'enseigne française, donc pardon, Grand Frais, passe sous pavillon américain.
Absolument, Grand Frais, c'est 450 magasins. Vous savez, ces magasins aux allures de marché couvert, spécialistes des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits de la mer, de la boucherie. Elle est présente sur tout le territoire et elle est aujourd'hui sur le podium des marques préférées des Français. Ça pèse lourd, hein, Grand Frais. Il faut savoir que sur les fruits et légumes, ça pèse presque autant quasiment que Carrefour. Grand Frais appartenait au géant français de l'investissement Ardian. Il est racheté par le gestionnaire d'actifs américain Apollo. Dans la corbeille de mariage, il y a aussi des enseignes comme la boulangerie du marché, Mon Marché et Biofrais.
Pourquoi cette vente? Est-ce que ça veut dire que Grand Frais est en difficulté d'abord?
Non, Grand Frais va bien. Hein. Le chiffre d'affaires progresse à peu près de 8% par an et c'est quasiment la marque la plus rentable. Au mètre carré, Grand Frais, c'est plus rentable que Leclerc, imaginez-vous. Et le problème, c'est qu'il faut rappeler ce que c'est que la vocation d'un fonds d'investissement. C'est pas d'accompagner une entreprise toute sa vie, c'est d'acheter une entreprise, de la développer quelques années, puis de la revendre beaucoup plus cher qu'elle ne l'a achetée. Mission accomplie pour Ardian, qui avait acheté en 2017 Grand Frais pour 1,7 milliard d'euros et qui a dû le revendre là 4 ou 5 milliards d'euros. Donc à son tour, Apollo a de grosses ambitions.
Sur le fond, et presque j'allais dire, quand on fait nos courses, ça va changer quelque chose à la stratégie de Grand Frais?
Alors, ce qui va changer d'abord, c'est l'accélération du développement de l'enseigne. Hein. Mi-octobre a déjà été annoncé un projet de cession de 25 à 30 magasins Jiffy. Vous savez, Jiffy, ça va pas très bien, qui vont devenir Grand Frais. Grand Frais, par exemple, espère récupérer aussi beaucoup de magasins de bricolage qui, eux aussi, vont mal. Donc, on va avoir à peu près un rythme d'ouverture qui va s'accélérer. On en avait une quinzaine par an, on en aura 25. À moyen terme, Grand Frais espère doubler son nombre de magasins et surtout a pour objectif de se rapprocher des grands centres urbains. Aujourd'hui, Grand Frais, c'est plutôt à la périphérie des petites villes. Là, l'idée, c'est d'aller à la conquête dans les grandes villes. L'autre priorité, c'est de sécuriser les approvisionnements. Aujourd'hui, Grand Frais, c'est plus de 2300 fournisseurs, 95% européens, en allant d'ailleurs jusqu'à intégrer les fournisseurs au groupe. C'est ça qui fait la spécificité Grand Frais, du champ à l'assiette, et puis améliorer l'offre, évidemment, que plébiscitent les consommateurs, c'est-à-dire des produits qualitatifs, plus chers qu'ailleurs, mais ultra frais, et c'est là qu'est le défi, puisque avec la complexité, le vrai défi pour Grand Frais, ça va être de maintenir une logistique militaire, parce que c'est ça qui fait le succès de Grand Frais, c'est vraiment la durée très courte entre le champ et
le rayon.
Et le rayon. Exactement.
Emmanuel Le Chypre, l'économie, 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h30. Notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. Il disait que la France n'avait plus les moyens d'être généreuse. Franchement, est-ce qu'il y a renoncé? On lui pose la question donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup tous les jours à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h17, Arnaud Demange est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Tiens, avec Mathieu, nous aimerions à quelques jours de Noël, Apolline, les amis, vous faire passer un message très important. Stop à l'abandon des animaux pendant les vacances de Noël. Avec Mathieu, on se propose donc d'héberger gratuitement vos huîtres, vos saumons, vos crevettes, vos chapeaux, vos coquilles Saint-Jacques pour les fêtes. Ne nous remerciez pas, c'est important pour nous. Manu Le Chypre aussi est partenaire de cette opération. Il nous disait « Oh oui !» Des coquilles Saint-Jacques.
Oh, oui. On le fait avec bon cœur.
Oh oui, gavez-moi. Gavez-moi comme un canard du sud-ouest. Coin.
Voilà, c'est une matinale solidaire.
C'est beau ça,
sinon.
Beau,
hein. Alors en ce moment, justement, c'est les Secret Santa en entreprise. Vous savez, les Pères Noël secrets, vous connaissez le principe. On offre un cadeau à une personne sélectionnée au hasard avec un petit budget. On l'a fait ici, on le fait dans toutes les boîtes. Ils l'ont fait chez CNews. J'aurais adoré voir ça.
Amis de l'heure des pros, c'est l'heure des cadeaux. Tenez, mon cher Jean-Marc Morandini, un livre.
Oh, le code pénal, je l'avais jamais lu.
On sait, Jean-Marc.
Eh ben moi, j'adore le rugby. Je vous ai acheté le calendrier des dieux du stade, catégorie moins de 15 ans. Vous pouvez l'afficher dans votre bureau. Ou alors dans le mien. J'ai fait les photos moi-même, c'était génial. Et je vous offre aussi, mon cher Pascal, un parapluie et un ciré jaune, parce que je sais que vous êtes en face de Philippe Bilger pendant l'émission.
Alors ça, vraiment, c'est très inélégant. Quant à moi... Pardon, excusez-moi.
Quant à moi, mon cher Bilger, je vous offre un arbre généalogique à remplir. Merde, je me suis gouré de voix. Pardon, je refais. Quant à moi, mon cher Philippe Bilger, je vous offre un arbre généalogique à remplir. C'est plus marrant avec de Villiers, parce qu'il a des ancêtres qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de tout le monde. Et vous, monsieur Bolloré, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Du pouvoir! Du pouvoir!
Du pouvoir et des crêpes. Mais galons, mais bretons avant tout. Voilà, excusez-moi pour le petit, la petite confusion.
François Bayrou a été hospitalisé à Pau pour une grippe très sévère.
Oui, c'est vrai que cette année, la grippe tabasse, on dirait un prof de Bétarame. Alors on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais je crois qu'il va déjà mieux. Hein. Cette nuit, il marchait dans les couloirs de l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Bayrou?
Je débranche les respirateurs artificiels de tous ces bâtards de boomers hors de prix. Allez, ça suffit de payer des retraites avec de la dette.
La fièvre est peut-être pas tout à fait passée. Bisous à lui.
Pour la première fois, il y a plus de morts que de naissances en Françoise dans le thème, j'ai l'impression.
Bah oui, je sais, bah, m'engueulez pas, hein, je peux pas être partout. Donc il faut faire des enfants. Non mais il y a tellement peu d'enfants, on est obligé d'en importer sur Chine maintenant, ça ne va pas du tout. Louis Sarkozy nous disait tout à l'heure, dans sa chronique à 7h50, il nous a dit « Française, Français, faites l'amour. Français, chevauche ta femme comme le général de Crayembois chevauchait son destrier éclair du Kentucky à la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1756. » Il faut faire des enfants. Brigitte Macron disait hier « On peut reprocher tout ce qu'on veut à Harry Habitant, mais au moins... » Non, Brigitte, non. Attention, il y a une caméra. Oh, tu m'emmerdes, toi. Aïe! Elle est tendue en ce moment, hein. Macron qui était à Marseille hier pour parler avec les narcotrafiquants, je suis sûr qu'il est allé voir deux petits de la DZ Mafia en leur faisant psst, psst, vous avez pas du shit pour ma femme? Un truc qui détend, qui calme.
Alors, sur le sujet des enfants, j'ai lu quelques articles. Les Français font moins de bébés par manque de moyens. En même temps, faire l'amour à but reproductif, c'est 10 minutes qui ne sont pas consacrées à une activité rémunératrice. Je suis désolé, c'est 10 minutes de perdu dans la France de Macron. Si encore on était payé par l'État, ouvrons des maisons France bébé.
Comme France Travail, il y aurait une pièce avec de la moquette rose, du Barry White, un portrait de Macron au mur pour qu'on soit motivé à faire les travailleurs de demain qui payeront notre retraite, tout en étant indemnisés. Après, c'est un peu perturbant d'avoir conscience du problème. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais l'amour, j'entends « Bien, pense à ton pays, produis un travailleur !» Sinon, j'organise un Grenelle de l'orgasme piloté par Monique Barbu. Ça me coupe tout instantanément, que ce soit avec mes femmes ou mes maîtresses, à chaque fois c'est le même truc. Et je vois Brigitte en rêve rajouter « Ouais, bouge-toi le cul, connard, horrible !» Enfin voilà, le gouvernement veut s'attaquer au problème. J'appréhende. Quand le gouvernement s'attaque à quelque chose, quand il s'est attaqué au pouvoir d'achat, on a eu l'inflation, le pouvoir d'achat a diminué. Quand il s'est occupé du chômage, ils ont réduit les droits. Quand il s'est attaqué à la retraite, on a réduit les retraites. Ça donne pas envie qu'il s'attaque à nos sexes. Je ne veux pas. Allez, à demain. Et fais les bébés.
La maison à demain, Arnaud, demain. C'est l'heure de jouer et de gagner.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
C'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent extraordinaire et on va l'ouvrir pour Nathan. Bonjour Nathan.
Et bonjour.
Comment ça va Nathan?
Ça va super, je suis très heureux.
Ah là 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 là, Nathan, restez avec nous. Hein. Vous êtes à Toulon et vous avez gagné. Alors attention, quelle jour on est? On est le 17, on ouvre la petite caisse. Attention, c'est toujours un petit suspense, je suis obligée d'ouvrir, déplier. Oh là 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 là. Nathan, vous avez gagné. Grâce à Micromaniazing, vous avez remporté la console Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart d'une valeur de 510 euros. J'ai l'impression de faire le juste prix. Et c'est un très très... Oh là là, c'est un très très beau... Ça y est, c'est Noël en fait. Hein. C'est Noël, Nathan.
Exactement.
Je vous rajoute, attention, avec Micromaniazing, on vous offre en plus la Miam Box. Elle me fait rêver, moi, cette Miam Box. Spécial Noël, une boîte mystère avec une sélection de friandises originales pour Noël.
Des bonbons.
Voilà, bah, madame, elle mange les bonbons. Et vous, vous jouez à la Switch.
Exactement, avec les garçons, jouons à la Switch. Madame, par elle, nous regarderons, mangeons les friandises.
Et bah, vous savez quoi, c'est pareil à la maison. Chez moi, je mange les bonbons et eux, ils jouent à la Switch.
Moi, je joue à la Switch et je mange les bonbons. Il n'y a pas de débat.
Allez, je vous souhaite un très joyeux Noël, Nathan, à vous, madame et les enfants. Il est 8h23, on se retrouve dans un instant. On va reparler, tiens, de la prime de Noël aussi. Parce que mon invité, c'est Jean-Pierre Farandou. Il était le patron de la SNCF. Désormais, il est le ministre du Travail et des Solidarités. Il avait dit en arrivant que la France n'avait plus les moyens d'être généreux. Pour autant, depuis, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à quoi on ait renoncé. Est-ce qu'il n'était pas mieux finalement à la SNCF? Je lui pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC. Il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Des blocages malgré les annonces du gouvernement qui promet d'accélérer la vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire grâce à des vétérinaires militaires réquisitionnés pour vacciner 750 000 bovins dans les semaines à venir. Annonce insuffisante pour éteindre la colère grandissante des agriculteurs mobilisés depuis 8 jours contre l'abattage de leurs troupeaux comme Maud Chara. Elle est éleveuse et membre de la Confédération Paysanne.
Ce qu'elle a proposé, c'est pas suffisant. Elle propose d'aller étendre sur une zone du sud-ouest, mais nous, on demande... Est-ce que ce soit élargi à tout le territoire français, que tous les éleveurs puissent en bénéficier. Nous, on se met en place à 9h30 à Voreppe. C'est une filtration du trafic pour expliquer aux automobilistes pourquoi on est là et quelles sont nos revendications. Ici aussi, en Isère, on est solidaires des autres et qu'on est sur les revendications nationales. Bien sûr que c'est important de montrer qu'on est là et puis on avisera au fur et à mesure, mais là, on est motivé pour y aller.
Dans l'Ain, un troisième corps retrouvé par les secours dans les décombres après l'explosion d'un immeuble à Trévoux lundi. Le corps d'une femme retrouvée hier soir. Deux enfants de 3 et 5 ans avaient déjà été découverts morts. L'assaillant de Sydney inculpé pour terrorisme et 15 meurtres après l'attaque dimanche sur une plage de la ville australienne où s'étaient rassemblées des personnes pour la fête juive de Hanouka. 15 morts. Les premières obsèques ont commencé à se dérouler sous haute sécurité cette nuit. Le budget de la Sécu définitivement adopté hier avec la suspension de la réforme des retraites. C'est le premier texte budgétaire adopté sans passage en force, sans article 49.3.
C'était le rappel des titres de Clara Gabillet. Dans un instant, mon invité est ministre du Travail et des Solidarités, SMIC, allocation, prime de Noël, emploi. Toutes les annonces du ministre dans un instant sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre du Travail et des Solidarités, ancien président, directeur général de la SNCF. De très nombreuses questions à vous poser sur le SMIC, sur les allocations, sur la prime de Noël, sur l'emploi, sur le budget bien sûr. Mais en préparant cette interview, je me suis demandé si finalement vous n'étiez pas mieux à la tête de la SNCF. C'était presque plus confortable, non?
Bah, c'est différent, c'est sûr que la SNCF, je la connaissais très bien, j'ai passé 45 ans de ma vie, mais je suis content d'avoir accepté de m'engager pour le pays. Vous savez, moi je suis là pour les Françaises et les Français, travail, solidarité, il y a beaucoup de choses, quoi, tous les Français se sentent concernés par ces sujets. Si je peux être utile pour eux, bah, je le ferai bien volontiers.
Et c'est ce qu'on va voir justement, utile comment? Alors d'abord dans un contexte évidemment où on attend de savoir si le budget de la France sera voté ou non, je vous interrogerai là-dessus, mais il y a une question évidemment très précise sur la prime de Noël, parce que c'est dans quelques jours. Et Peut-être c'est même là-dessus qu'il y a eu une question presque, j'allais dire, de philosophie autour de votre arrivée au ministère du Travail et des Solidarités. Parce que lorsque vous êtes arrivé, il y a donc quelques semaines, vous déclariez, je vous cite, « L'État français a été très généreux » et vous disiez au fond qu'il serait difficile de continuer à l'être. Vous envisagiez en particulier sur cette prime de Noël de la restreindre pour ne plus la donner aux ménages sans enfants ou aux célibataires sans enfants. Au moment où on se parle, est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que les choses ont évolué? Et la prime de Noël sera-t-elle versée à tous?
D'abord, elle a été versée hier, la prime de Noël.
Donc ça y est, c'est fait.
Ça, c'est fait. Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle.
Y compris à ceux qui n'ont pas d'enfants.
Oui, elle a été versée dans les conditions habituelles. Donc, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, du moment qu'on est bénéficiaire du RSA, on a reçu la prime de Noël. Personne seule, personne avec enfant, tout le monde a reçu la prime de Noël. L'année prochaine, donc là, ça renvoie à ce que vous avez indiqué, c'est le débat sur le budget pour l'année prochaine. Ce budget pour l'année prochaine, pour l'État, on cherche à l'équilibrer. Vous savez qu'on voulait même partir dans la copie initiale à 4,7% de déficit, parce que c'est très important que l'État français sorte progressivement ce problème de déficit qu'accroît la dette, taux d'intérêt de plus en plus élevé, la charge de la dette étant plus lourde. C'est ça. Dans cette copie initiale, c'est vrai, je l'ai dit, il y avait effectivement la proposition de réduire les bénéficiaires de la prime de Noël. C'était une proposition. Tout de suite, j'ai dit aussi que j'étais prêt à en discuter. Et d'ailleurs, c'est le Parlement qui va le faire. Donc, pour le moment, rien n'est encore tranché. Le Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale, décidera de la manière dont tu veux appliquer la prime de Noël dans ce pays l'année prochaine.
Donc, il reste quelques jours, effectivement, pour en décider. À titre personnel, vous estimez toujours que l'État n'a plus les moyens d'être aussi généreux?
Alors sur la question de fond, c'est tout le débat un peu du financement de la sécurité sociale, de notre système de protection sociale. C'est un vrai sujet. On sait que ça consomme de plus en plus de part de notre richesse. Je pense que moi, il faut ouvrir le débat. Je pense que c'est pas l'occasion d'un projet de loi de finances qui est un peu technique, qui va vite, on est au Parlement. Je suis prêt à engager un débat de fond, comme je l'ai fait sur les retraites à travers une conférence qu'on a lancée dans le pays avec les partenaires sociaux. Je suis prêt à réunir toutes les parties prenantes pour discuter c'est quoi notre modèle social, notre système de protection et comment on le finance. Je pense que c'est un débat qu'il faut mettre sur la table. On est un peu aux limites, un peu de système. Il est né, vous savez, après la guerre, c'est le, on a un système de la sécurité sociale qui a 80 ans. Le temps est peut-être venu maintenant de remettre à plat les conditions de financement de notre système de protection sociale.
Ça veut dire, vous parliez à l'instant de la sécurité sociale, la semaine dernière, certains socialistes, Jérôme Guedj par exemple, disaient, moi je suis pour une grande sécu. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus le reste à charge d'un côté, les mutuelles de l'autre, en fait qu'il y ait une grande sécu. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion pour vous?
Moi, je suis très.
On voit là que la mutuelle, les prix des mutuelles vont encore augmenter. Est-ce qu'au fond, on n'arrive pas justement à ce bout du système où c'est les vases communicants, où quand l'État ne veut plus, il se déverse sur les autres?
Aujourd'hui, le système de la sécurité sociale en France, la protection sociale, les retraites, la maladie, il est payé par le travail, par des cotisations patronales, donc qui renvoie au coût du travail, et salarial, qui renvoie d'ailleurs la différence entre salaire brut et salaire net, qui est aussi un débat dans ce pays sur le pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, il est payé de plus en plus aussi par l'État qui comble le trou, puisqu'il manque encore de l'argent, les cotisations ne sont pas suffisantes. C'est ça qu'il faut mettre sur la table. Moi, il n'y a pas de solution évidente, mais en tout cas, discutons-en, regardons les formules possibles, et je pense que ce débat sera très utile. Au fond, je suis en train de dire que la prochaine campagne présidentielle, elle sera sociale. Il faudra parler retraite, il faudra parler sécurité sociale, et on peut penser que le débat démocratique tranchera le modèle de protection que les Français souhaitent pour leur pays.
Ça veut dire que d'ici là, on a quand même le sentiment qu'à chaque fois qu'on essaye de toucher à un débat de fond, comme on le fait à l'instant avec vous, Jean-Pierre Farandou, on nous renvoie à 2027. Ça veut dire que d'ici là, au fond, ce sera une sorte de gestion des affaires courantes.
Ah non, on est prêt à faire beaucoup de choses. Moi d'ailleurs, je rends sur mon ministère à moi, emploi des jeunes, emploi des seniors, accident du travail. Il y a beaucoup de choses à faire et je suis prêt à les engager. Et honnêtement, il me tarde que la période budgétaire soit terminée. Ça me consomme beaucoup de temps. Moi, je suis sur les starting blocks, je suis prêt à partir. Je rencontre beaucoup de patrons de fédérations, par exemple professionnels, et je vois bien avec eux comment on peut les aider à mieux fonctionner. Moi, il me tarde de me mettre au service de mon pays, au service des entreprises, pour le travail et pour l'emploi.
Donc ça veut dire que pour ça, il faudrait que le budget soit voté et vite. On n'a pas l'impression qu'il sera voté avant Noël,
Moi, j'espère. Vous savez, je suis un optimiste. Je crois beaucoup au dialogue, je crois beaucoup au compromis. Ce qui va être très important, c'est ce qu'on appelle cette commission mixte paritaire de vendredi, avec 7 sénateurs et 7 députés. Ils ont en main, quelque part, peut-être le succès de ce projet de loi de finances pour la France, ce budget pour la France. Espérons qu'ils arrivent à converger. S'ils convergent, ensuite, il faudra que ce soit voté. Mais moi, on fait tout côté État pour leur donner tout le matériau, tous les éléments, pour qu'ils arrivent à converger vendredi ou samedi.
Certains, au sein même de la famille politique du Bloc central, alors on ne sait plus très bien où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'il s'arrête, mais quelqu'un comme Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, ancienne ministre du gouvernement, elle dit aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir sans 49-3.
il vaut mieux un 49-3 que pas de budget. Est-ce que vous faites partie de cela?
Ah non, là-dessus, moi, je suis très aligné sur mon Premier ministre qui a décidé de ne pas utiliser le 49-3, de donner la responsabilité au Parlement de faire la loi, la fabrique de la loi, parce que ce sont des lois dont on parle, hein, à la fois la sécurité sociale et le budget de l'État, ce sont des lois. Ben, nous apprenons, c'est très innovant, faire effectivement, peut-être dans la Ve République, hein, le pouvoir est donné au Parlement, le gouvernement participe, bien sûr, dans les négociations, dans les débats, dans la recherche de compromis. On a réussi pour la sécurité sociale, au fond, même si c'est peut-être plus difficile, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas non plus pour donner un budget à l'État français.
Donc, tant pis si ça doit prendre du temps.
Tant pis, ça doit prendre du temps, mais pas trop de temps non plus, parce qu'on a besoin d'un budget, c'est important. Par exemple, pour les armées, on est prêt à mettre 6,7 milliards d'euros supplémentaires pour mieux se défendre. C'est dans le projet de loi. On parlait de la prime de Noël. La prime de Noël aussi, elle est dans le budget. Donc c'est très très important de donner un budget. Et j'espère, moi je suis toujours optimiste et je crois à la capacité de compromis, qu'on peut y arriver d'ici la fin de l'année.
Le SMIC, la hausse du SMIC, est-ce que vous confirmez ce que les syndicats ont annoncé la semaine dernière? Est-ce qu'un décret sera effectivement présenté pour augmenter le SMIC et à quelle hauteur?
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui normalement que ça se décide en Conseil des ministres. C'est ça la procédure. Le SMIC sera augmenté un peu plus que l'inflation. L'inflation est à 0,9%, c'est les derniers calculs sur un an. Le SMIC sera augmenté de 1,18%, donc avec un petit supplément par rapport à l'inflation.
1,18%.
Oui.
Donc il y a une sorte de petit coup de pouce.
Ah, c'est un coup de pouce intégré au mode de calcul, parce que le mode de calcul fait que on donne souvent un peu plus que l'inflation. Et d'ailleurs, depuis 2021, le SMIC a déjà été augmenté de 17%, alors que l'inflation est à 15, ont été augmentés de 15% et les salaires de 15%. Donc on voit le SMIC se tient bien, et via les mécanismes d'indexation, on arrive bien à le maintenir à un niveau suffisant.
Jean-Pierre Farandou, depuis lundi, 750 salariés de Brandt qui ont perdu leur emploi. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur leur avenir? Est-ce que le gouvernement va s'en charger? Est-ce que vous avez un peu d'espoir à leur donner?
Oui, d'abord c'est un drame humain. Moi, je viens de l'entreprise, vous le savez. Hein. Donc une entreprise qui ferme, c'est un drame. C'est d'abord un drame humain, c'est un drame économique, mais c'est d'abord un drame humain. 750 salariés vont perdre leur emploi sur le site de Saint-Ouen et sur le site d'Orléans. On va les aider, le ministère du Travail en particulier. C'est notre travail, c'est notre job. Hein. On va les accompagner un par un pendant 12 mois. On va les aider à retrouver un emploi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire financièrement? Ça veut dire en termes de formation? Exactement. En termes de recherche d'emploi?
D'abord, on leur assure au minimum 75% de rémunération de leur salaire brut pendant 12 mois. Donc c'est une période assez longue où ils sont sécurisés au plan économique. Et deuxièmement, des conseillers emploi vont être mis à leur disposition pour des diagnostics individuels. Pour chacun, l'histoire de chacun est différente. Quel nouveau projet professionnel ils ont? On va les aider à réussir et à Saint-Ouen et à Orléans.
Il y a deux plans sociaux, j'allais dire silencieux, dans le pays. L'un dans le bâtiment et d'autres dans le commerce, et notamment le commerce de l'habillement. On apprend que IKKS, l'enseigne de vêtements français, va se retrouver en redressement. 350 magasins qui pourraient fermer. Là aussi, c'est à chaque fois des emplois. Quel regard vous portez là-dessus? Et est-ce qu'il y a un moyen de stopper cette hémorragie?
Il y a deux sujets. Il y a là, effectivement, le traitement de fonds, on est envahi de produits chinois. C'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à se protéger de ce plan d'invasion massive de produits chinois à très bas coût, avec du dumping social, des normes sanitaires qui sont pas respectées. Et voilà, il faut absolument qu'on se protège au niveau français, au niveau européen. Ça, c'est central, c'est stratégique.
Sinon, fait avoir. Franchement, sur cette histoire, on s'est fait avoir comme des bleus.
Ben, peut-être que l'Europe a été un peu naïve. Hein. Je pense qu'une forme de naïveté de l'Europe, c'est fini. Il faut que l'Europe se prenne en main. On a d'un côté les Chinois qui veulent nous envahir, et de l'autre côté les Américains qui se protègent par leurs tarifs douaniers. Voilà, c'est ça la réalité du monde. Dans cet environnement-là, l'Europe doit devenir plus solide et se protéger davantage.
L'Europe et la France, hein, pardon, je fais une insertion sur cette question des petits colis. Je recevais ce matin sur RMC l'un des députés en charge du rapport qui sera dévoilé ce matin, qui disait que sur ces petits colis, seuls 0,008% de contrôle, et lorsqu'ils sont contrôlés, 9 produits sur 10 ne respectent pas les normes. Quand on sait ça, est-ce qu'il ne faut pas stopper net?
Bon, après, ce sont des discussions qu'il faut avoir là aussi au niveau français et au niveau européen quand même. Il faut être sérieux parce que...
Mais en termes de concurrence pour ceux qui, dans notre pays, respectent les normes lorsqu'ils fabriquent, c'est insupportable.
Oui, on est bien d'accord, je suis absolument d'accord. C'est bien pour ça qu'il est temps de se défendre, il est temps de mettre en place des mécanismes solides, de se protéger. Il faut se protéger de produits qui sont pas aux normes, de produits qui sont dangereux, de produits qui sont en dumping social. Il faut se protéger. Ça, c'est l'amont. C'est absolument vital. C'est une forme de guerre économique, hein. Faut bien voir. Et donc, faut se protéger. protégés. Et deuxièmement, bien évidemment, après c'est l'aval. Quand il y a des conséquences sur l'emploi en France, là mon ministère intervient à fond et France Travail. On a une superbe agence, 55 000 conseillers qui sont mobilisés pour aider les Français à retrouver du travail. J'ai visité un France Travail à Saint-Denis il n'y a pas très longtemps. C'est très impressionnant. Ce sont des grands professionnels qui accompagnent chacun et on trouve des solutions. On a un système de retour vers l'emploi qui fonctionne bien dans ce pays. Heureusement, mais franchement, ça fonctionne. Voilà. Donc, protection
donc,
en amont.
Donc, les 350 magasins IKKS, donc effectivement 40 000 emplois qui ont été détruits sur les dernières années dans le monde du bâtiment. Vous ne redoutez pas que le chômage à nouveau se réinstalle comme un chômage de masse?
Non, d'abord, on est résilient. Il faut voir les chiffres, hein, pour le moment. Alors, on voit bien que cette situation économique est terrible, hein, quand même. Hein. On est pris en sandwich quelque part entre l'agression des Chinois et le protectionnisme des Américains. Mm. Voilà. On résiste pas trop mal en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France a fait la moitié la croissance européenne à elle toute seule. Dans notre modèle, il est résilient. Et s'il est résilient, c'était d'ailleurs que les politiques qu'on a conduites ces dernières années ne sont pas trop mauvaises. Cet équilibre entre politique de l'offre, politique de la demande. On a des grands champions. On a l'aéronautique, je crois que le carnet de commandes d'Airbus n'a jamais été aussi plein. On a le nucléaire, on a le BTP, on a l'armement. On a des grandes filières qui fonctionnent très bien et qui tirent toute l'économie française. Voilà, donc tout ça, nous l'avons en main. Donc certes, tout n'est pas parfait. Mais honnêtement, notre pays résiste bien et on a des atouts pour résister dans cette grande concurrence mondiale qui s'organise.
Jean-Pierre Farandou, la question des allocations familiales. Le projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui a donc été adopté prévoit de décaler l'âge de majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans. Aujourd'hui, quand votre enfant avait 14 ans, votre allocation familiale était revalorisée, considérée qu'il vous coûtait plus cher. Ça ne sera qu'à 18 ans. Est-ce que vous allez pallier à cette question-là pour les Français, pour le manque à gagner que ça serait pour les familles?
Ouais, ça c'est le Parlement qui l'a décidé, la loi elle va s'appliquer. Voilà. Là encore, faut pas oublier qu'il y a cette notion de recherche d'économie quand même. C'est l'équilibre
enfin,
entre l'économie et le social.
Honnêtement, déjà que les gens font pas de bébés.
Il faut que tout le monde fasse des efforts. Voilà. C'est bien le problème. On voit bien que chaque fois qu'on demande des efforts dans ce pays, c'est compliqué à accepter. Comment on fait? On peut pas à la fois équilibrer ou chercher à équilibrer la sécurité sociale et refuser tous les efforts. Alors, les efforts, c'est compliqué, c'est difficile à assumer aussi, hein, bien sûr, pour un gouvernement. Mais c'est notre devoir aussi de trouver ces équilibres économiques, sociaux. Surtout quand ça n'est pas trop mal sorti. Ce budget, il est pas mal. Il a évité le dérapage des comptes de la sécurité sociale avec un chiffre qui reste raisonnable, même toujours en déficit. Mais on pouvait pas rétablir l'équilibre d'un seul coup. Et il apporte beaucoup de bonnes choses aux Français sur la santé, sur les retraites.
Vous l'assumez,
oui,
ce
je
budget.
L'assume. Et moi, honnêtement, ma lecture, je trouve que c'est pas un mauvais budget. J'entends beaucoup de critique que je trouve excessive. Il arrange la retraite des femmes, par exemple. Depuis le temps qu'on a parlé, les femmes qui ont des enfants verront leur retraite améliorée. Il arrange aussi tout ce qui est l'accès aux soins dans les territoires. Donc il y a plein de bonnes choses dans le budget. Regardons ce qui va bien. Attention à pas tomber dans le catastrophisme dans ce pays. On voit toujours ce qui va mal, on le boursouple, on ne voit pas ce qui va bien. Or, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ce pays.
L'allocation sociale unique, ça faisait partie des choses auxquelles vous croyez beaucoup. Vous avez encore dit il y a 10 jours que vous aviez un projet d'allocation sociale unique pour décembre 2025. Est-ce qu'on y sera?
Alors, l'allocation sociale unifiée, c'est rendre notre système d'aide plus lisible, plus simple, plus accessible, plus équitable. Voilà. Donc, c'est ça l'objet. Et on ne renonce pas, bien évidemment.
Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des multiples guichets ou plusieurs lignes, on aura... Expliquez-nous vraiment ce que ça changera
exactement.
Au quotidien.
Bon, vous aurez un compte social unique où chacun pourra savoir exactement ce à quoi il a droit. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et on sait d'ailleurs des gens n'accèdent pas à leurs droits parce qu'ils savent pas bien s'y retrouver dans la jungle des systèmes qui existent. Et deuxièmement, vous avez aussi un revenu social de référence ou par foyer, où on saura exactement finalement le niveau de revenu d'un foyer ou par le travail ou par les aides. Et à partir de là, c'est beaucoup plus équitable pour allouer un certain nombre d'aides. Voilà, c'est plus. Et deuxièmement, je le redis, tout ça, bien évidemment, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il y a un plan des solidarités dans ce pays. On a de la pauvreté, c'est pas nouveau. Hein. Il y a 10 ans, il y avait 9 millions de pauvres, il y en a 10 millions. Donc c'est pas nouveau. Qui est pour dans ce pays. Par contre, nous battons contre la pauvreté avec beaucoup d'énergie. Ce système d'aide, il est là pour ça.
Je voudrais aussi vous interroger sur la démographie, parce qu'on l'a appris hier, ça y est, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de morts que de naissances dans ce pays. Ça aura forcément des conséquences sur notre modèle social, comme vous le disiez, qui est à revoir. En gros, à un moment ou à un autre, il faudra soit qu'il y ait davantage d'immigration, soit qu'il y ait des gens qui travaillent plus longtemps, soit qu'on renonce à un certain nombre d'aides qui ne seront plus financées entre les actifs et les retraités. Qu'est-ce qu'on fait ?
Bah, c'est vrai que la démographie, c'est ce qui secoue le plus tous nos systèmes de protection. Mais évidemment, notre système de protection, il a été conçu, comme on le disait, après la guerre. Hein. Il y avait 4 actifs pour un retraité. Maintenant, il y a 1,4 actifs pour un retraité.
Voilà. Et là, on voit que ça va pas s'améliorer. Voilà.
À l'époque, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Là, heureusement, grâce à le progrès de la médecine, les gens vivent plus vieux. Vivant plus vieux, on sait que le coût en maladie est plus élevé. Donc, vous l'avez dit, la démographie vient questionner tous nos systèmes d'aide. Voilà. Donc, comment il faut faire? Il faut effectivement, d'abord, il faut l'admettre. Il faut ouvrir les yeux. Vous savez, la lucidité, c'est pas toujours facile d'admettre les choses. Après, bien oui, on voit bien qu'effectivement, il va falloir certainement travailler plus de travail. Alors, plus de travail, ça veut dire aussi que les seniors travaillent davantage. Même si ça va mieux, là encore. Commençons par regarder la bouteille à moitié pleine. Le taux d'emploi des seniors, le taux d'emploi des jeunes n'a jamais été aussi élevé dans ce pays. On progresse. Mais on a encore des marges de progrès par rapport à la moyenne européenne. Donc, moi, je veux travailler sur ces deux sujets. Taux d'emploi des jeunes, taux d'emploi des seniors.
Un mot sur la colère agricole. En tant que patron de la SNCF, vous sillonniez tout le territoire français. Quel regard vous portez sur cette colère? Est-ce que vous imaginez qu'elle puisse se calmer?
Moi, d'abord, j'allais dire, je comprends la colère agricole parce que voilà, c'est mon histoire personnelle, c'est pas très important, mais mes grands-parents étaient les paysans du Sud-Ouest dans les zones qui sont concernées.
Exactement.
Voilà, et des vaches, j'en ai connu dans les fermes et je connais l'attachement des paysans à leurs vaches. Ils les appellent par le prénom. Vous voyez, elles ont des prénoms, les vaches. Donc, le lien affectif, il est très important. Voilà. Donc, je fais court, mais je comprends tout à fait. Ce que le gouvernement a décidé, c'est de massifier, d'accélérer la vaccination dans le Grand Sud-Ouest, dans non seulement les zones infectées, mais au-delà. Donc il y a 5 départements concernés par des infections. C'est très contagieux, c'est une maladie qui est terrible. Donc faut vraiment mettre le paquet, faut les isoler. Et il y a un cordon sanitaire, 6 départements autour, pour faire vraiment un cordon sanitaire avec tout le reste du pays. L'enjeu, c'est d'éviter que cette maladie ne se propage pas aux 16 millions de bovins dans notre pays. Donc on met le paquet, 750 000 vaccinations vont être faites. On mobilise tous les vétérinaires, les actuels, les retraités, ceux de l'armée, ceux de l'État, les étudiants. On met le paquet, on commence par l'Ariège. Il y a 1000 fermes en Ariège où la vaccination sera faite d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est un effort de mobilisation générale. Je remercie d'ailleurs les vétérinaires qui se mobilisent tous. Vraiment, tout le monde se mobilise pour éradiquer cette maladie, notamment par un effort massif de vaccination accéléré dans le Grand Sud-Ouest.
Avec cet effort, vous vous dites qu'il faut lever les blocages désormais ?
Ça, il appartient aux organisations syndicales agricoles de voir ce qu'elles veulent faire. Moi, l'expression de la colère, on l'entend. Après, je crois que l'État, une fois de plus, voyez, face aux difficultés, l'État répond présent. Moi, je voudrais. On a parlé de Brandt, on parle de la vaccination. On fait face à des dangers pour les Français. On est là pour protéger les Français. On est là pour agir et apporter des solutions.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, ancien président, directeur général de la SNCF. Il est 8h47 sur RMC BFM. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Pierre Farandou, le vrai, est resté avec nous ce matin. Rebonjour, monsieur Farandou.
Bonjour.
Et son successeur à la SNCF, David Rameau.
Bonjour. Bonjour, Jean Castex.
Les
imitations sont tellement parfaites. Je voulais remercier Jean-Pierre Farandou, mon prédécesseur à SNCF, qui m'a laissé une entreprise dans un état. Dans un état. Avec des liaisons TGV qui changent la vie des gens, il faut bien le dire. Hein. Le Lyon-Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux. Hein, le Lyon-Bordeaux direct, hein. Bon, qui fait un petit crochet par Paris.
Voilà.
Hein. Mais pareil, le Strasbourg-Brest, hein, direct, hein, qui fait un petit crochet par Perpignan.
Bien sûr.
Bref, il m'a laissé un maillage exceptionnel. Hein, vous voyez, ce qui fait que je n'ai plus rien à faire, je pantoufle.
Merci, monsieur Castex. Il y a un de vos anciens cheminots, tiens, monsieur Régis, qui souhaitait vous saluer.
Oui, je voulais saluer mon ancien président, Jean-Pierre Farandou. Moi, je suis qu'un petit cheminot. Je vous dis quelque chose, peut-être, non c'est, hein, si, le train pour Pau.
Voilà.
C'était moi, le train pour Pau. Hein, c'est même moi qui ai remis Bérou dans le train pour Pau. Hein. Oui, Jean-Pierre, c'est un exemple. C'est le seul cheminot qui bosse à 68 ans, même s'il en fait 10 de moins. Hein. C'est le seul cheminot qui pousse. Et pourquoi il bosse jusqu'à 68 ans? Pour payer les retraites de ceux qui sont partis à 47.
Ah, voilà.
Et 3 mois. C'est important, les 3 mois. Hein. C'est voilà. Mais maintenant, Jean-Pierre, les ministres du Travail, parce que la SNCF, c'est un tremplin. Il y là, c'est un tremplin. Sauf pour Castex qui l'a pris à l'envers, le tremplin.
Merci, monsieur Régis. On reproche aux Français de ne pas travailler assez. Nos voisins allemands travaillent chaque année près de 120 heures de plus que les Français. Angela Merkel, vous l'avez entendu, est avec nous.
Oui, bonjour, monsieur Farandou. Bonjour, Apolline de Mahalirp. Et c'est vrai que le temps de travail, c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qu'ici dans ce studio, ils sont 15, d'accord? Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres, tranquille. Regardez ce garçon, ce jeune garçon, Aurel Getsch. Oui. Il est médecin. Puis, on dirait pas si, mais il a le diplôme. Il y a plein de patients dans les urgences qui attendent, qui sont bonnets. Lui, non. Lui, il fait les petits selfies. Il rigole. Voilà. Et dimanche, pareil. Dimanche, il fait deux fois trois minutes de blague. Et après, la journée, elle est finie. Et Texer, il liste un genre. Ils font les formations, tu parles. Ils font pas les journaux entiers. Ils font les petits flashs. Ils ont les petits flashs. Ils vont les pauvres. Un petit flash encore. Non, franchement, et c'est un pays de feignasse. Voilà, il n'y a qu'à Apolline qui bosse vraiment. Et Cantelou aussi, beaucoup.
Oui, Cantelou.
C'est peut-être le plus gros bosseur. Parce qu'Apolline, juste, elle lit, mais c'est Cantelou qui l'a tout écrit. Si. Tu sens l'orgueil d'Apolline. Elle est perdue. Elle est pauvre. Tu veux aller
Arrêtez, c'est n'importe quoi, Madame Merkel. Allez, on enchaîne. Justement, on va faire travailler un petit peu Thibaut Texer pour un flash info. Pas plus de 3 minutes, Thibaut.
Oui, comptez sur moi, Apolline. Ce matin, je vais essayer de parler un peu moins fort par carfosse à force de beugler. J'ai peur de voir débarquer un vétérinaire pour me vacciner contre la dermatose. Lutte contre le narcotrafic à Marseille. Emmanuel Macron a annoncé que l'amende pour usage de drogue va passer de 200 à 500 euros. Mauvaise nouvelle donc pour les consommateurs qui, pour pouvoir payer leur amende, vont devoir se mettre à dealer. Et puis, c'est une première depuis 1945. Il y a plus de décès que de naissances en France. Ségolène Royal souhaite réagir.
Oui,
écoutez, cette baisse de la natalité, écoutez, c'est normal, c'est une évidence. Hein. Mm. Un homme sur deux trompe sa femme et l'autre est infidèle. Hein. Voilà. Donc forcément, ça donne pas envie aux femmes. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Mais il faut y aller quand même, faut faire comme moi, faut se pincer le nez.
Non.
À votre tour, les jeunes, moi j'ai déjà donné. Hein. Oui, j'ai fait 4 gosses à François Hollande.
Oui,
de mémoire 4.
Oui,
même moi, ça me surprend, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais écoutez, c'est ça, il faut être patriote. Hein. Il faut avoir le sens du sacrifice. Hein. Moi, vous savez quoi, je mériterais d'avoir une flamme qui brûle en permanence à côté de celle du soldat inconnu pour avoir tant donné à mon pays.
Madame Royale, c'est modestie. Le leader de Place Publique nous a rejoint pour parler de la dermatose nodulaire. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Oui, bonjour Apolline. Bonjour à Jean-Pierre Farandou. Il faut absolument, je le dis, tout faire pour que cette épidémie reste contenue à l'Ariège et n'atteigne pas notre pays.
Excusez-moi, monsieur Glucksmann, l'Ariège, c'est en France.
Comment ça, en France? Attendez. Les habitants de l'Ariège... Excusez-moi, mais il y a un accent, pardon, ils ne parlent pas français. Attends, je regarde sur Google Maps... Non, je vois pas l'Ariège, c'est dans quel arrondissement de Paris?
Non, l'Ariège, c'est dans c'est un département français, c'est la région Occitanie.
Occitanie, d'accord, bon, ouais. Écoutez, je vous fais confiance. En tout cas, le gouvernement, et c'est une urgence, doit prendre des mesures drastiques.
Abattre les troupeaux?
Non, faut carrément interdire l'élevage et favoriser la production végétale, production de quinoa, de graines de chia, de baies de goji. Est-ce qu'on veut voir un monde agricole totalement dérégulé avec des céréales qui contiennent du gluten? Non mais vous avez bien dit, monsieur Parandou, du gluten, vous imaginez le poison avec du lait qui ne provient pas du soja, et pourquoi pas aussi des pokéballs non végétariens et de vin non bio.
Non.
Non.
Il est plus que temps, et je le dis solennellement, que notre pays soit en phase avec son époque. Vous avez vu la pub Intermarché?
Oui.
Ben, même les loups deviennent véganes. C'est le sens de l'histoire.
Merci Raphaël Glucksmann. Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous parlerons du retour du budget à l'Assemblée nationale avec Christian, qui est carrossier à Bordeaux, pas calant, et qui, justement, est en situation de surendettement. Et puis, nous reviendrons également sur cette terrible explosion liée à une fuite de gaz dans l'Ain avec Anne-Marie qui viendra témoigner, car elle habite un immeuble où, justement, il n'y a que des radiateurs électrique. Enfin, nous évoquerons le Mercosur avec Kader, qui est couvreur à Carcassonne, qui nous apportera son regard sur cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, puisqu'il a lui-même acheté un maillot du Brésil lors de la Coupe du Monde 98. Ouais, les meilleurs experts, vous l'avez compris, sont dans les GG.
Merci Nicolas.
Merci. Nicolas, passe à Cantlou pour retrouver demain à 8h50 sur RMC.